Voilà, donc ouvrez vos Bibles à Marc chapitre 11 ce matin. Marc chapitre 11, j'ai décidé, moi j'ai réfléchi à est-ce que je devais aborder le sujet par rapport au drame, alors j'ai décidé pas de le faire aujourd'hui, je réfléchis pour les semaines à venir. Donc, comme vous le savez, quand je sais pas trop quoi faire, je continue. D'accord. Marc chapitre 11, un message que j'ai intitulé, tout simplement, « Jésus purge le temple ». Jésus purge le temple, on va lire à partir du verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le passage devant nous est tout simplement fascinant. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on parcourt l'évangile de Marc, on a rencontré Jésus premièrement comme prédicateur. Ensuite, on l'a vu comme guérisseur. Il a guéri d'innombrables personnes. On l'a vu en tant qu'homme rempli de compassion pour ceux qui souffraient. On a vu un Jésus sauveur rempli d'amour. On a vu Jésus qui annonçait son sacrifice à venir. Tellement a-t-il aimé les gens qu'il offrait sa vie en sacrifice pour ôter leurs péchés. Mais aujourd'hui, nous découvrons une autre facette de Jésus. Un Jésus en colère. En colère. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on ne s'y attend pas trop. Aujourd'hui, vous demandez aux gens autour de Genève, qui est Jésus? Ben, ils vont vous parler de tous les bons traits de Jésus. Mais jamais ou rarement, quelqu'un va vous dire, oui, Jésus était un homme rempli de colère. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, il va se rendre au temple, à Jérusalem. Il se met en une telle colère qu'il décide de purger le temple. Il va renverser des tables, des échangeurs d'argent. Il va même expulser les gens de cet endroit parce que cet endroit était devenu un centre commercial au lieu d'un lieu de recueillement. Donc en fait, on va apprendre énormément sur Jésus aujourd'hui et c'est comme ça que je vais approcher ce texte. Qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Eh bien, ce texte nous apprend 5 traits de caractère étonnants de Jésus, dont celui de la colère, et ça, ce sera un de ces points. Donc peut-être, commençons avec le premier. Jésus, premièrement, manifeste dans cette scène une perspicacité divine. Une perspicacité divine, et vous allez voir, c'est tout lié. Il faut reculer un petit peu, comprendre ce qui se passe ici. Au verset 7, ils amenèrent à Jésus un anon. Vous rappelez que Jésus est descendu de la Galilée. Et là, c'est le jour où il va être acclamé en tant que roi des rois dans Jérusalem. Il est sur un anon, sur lequel ils jetèrent des vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements dans le chemin, d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédèrent et suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem. Donc il entre dans Jérusalem, acclamé par cette foule. Et au verset 11, quelque chose de très intéressant se passe. Il est dit que Jésus entra à Jérusalem dans le temple. N'est-ce pas intéressant de noter que lorsque Jésus entre dans Jérusalem, le premier endroit où il veut se rendre, c'est le temple. Et regardez la suite de ce verset. « Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc c'est lundi de cette semaine où il va être crucifié vendredi. Il arrive, il rentre dans Jérusalem, il rentre dans le temple et il considère tout. Ensuite, il va repartir et revenir le lendemain, purger le temple. Alors c'est ce petit mot « considérer » que je trouve intéressant dans le verset 11. Jésus rentre dans le temple et il considère tout. C'est ce que le texte nous dit. Le mot grec est intéressant, péribléppo. Bléppo veut dire regarder, regarder fixément, tourner les yeux vers une chose. Et le mot péri, vous connaissez comme un périscope, veut dire autour, faire le tour de. Donc Jésus rentre dans le temple, dans la cour des païens. Dans quelques instants, je vais vous montrer les photos. Il s'arrête. Sans un geste, sans un bruit, il regarde. Lentement, délibérément, ses yeux comme un périscope font le tour et il regarde. Et il examine. Apparemment, il ne dit pas un mot. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset nous dit « quand il a tout considéré, aucun détail » n'a échappé ses yeux. Son bilan ? Quel était son bilan ? Très mauvais. En fait, Jésus était écœuré par ce qu'il voyait ce jour-là. On le sait parce que le lendemain, il retourne et il purge le temple. Mais lui seul savait ce qu'il avait l'intention de faire le lendemain. Alors je me suis posé cette question. Il est dit que Jésus, après avoir tout considéré, j'essaie de me mettre dans le temple pour essayer d'imaginer ce qu'il a vu, ce qu'il considérait. Alors, laissez-moi peut-être, avant de vous dire ce que je pensais qu'il voyait, je vais vous donner l'histoire du temple, d'accord, très rapidement, pour qu'on comprenne un petit peu où on en est. Alors je recule dans l'histoire, d'accord, on est dans le livre d'Exode. Moïse reçoit les directives de la part de Dieu pour dresser une tente d'assignation, ce qui est appelé le tabernacle. Quel était le but du tabernacle ou de cette tente ? Dans Exode 25, il est dit au verset 8, Exode 25, 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, verset 9, et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. » Le verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Dieu avait choisi qu'il y ait une tente, ce tabernacle, et c'est là où Dieu manifesterait sa présence quelque part physique, par une colonne de feu et un nuage. Alors, les enfants d'Israël sont arrivés en Israël, et là, c'était temps maintenant de quitter l'idée de la tente et de construire un temple, un vrai temple en pierre. Donc c'est le roi David qui décide, une fois à Jérusalem, dans 2 Samuel 7.2 et 1 Chronique 17.1, de construire un temple permanent. Mais Dieu demande que ce soit Salomon, le fils de David, qui le construise au lieu de David. David était un homme de sang, il avait tué, beaucoup tué. Donc Dieu décide simplement que ce soit Salomon qui le fasse. Vous pouvez lire tout ça dans 2 Samuel 7, en Chronique 22. Alors c'est David qui va préparer les matériaux, mais c'est Salomon qui va accomplir et achever la construction. À cause d'une désobéissance chronique des Juifs à l'égard de Dieu, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu juge Israël par l'invasion des Babyloniens qui rasent Jérusalem et le temple. Je voulais quand même lire 2 Samuel 7, les directives de Dieu à David au verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » Donc c'est ça, David, Dieu dit à David que c'est Salomon qui allait construire ce temple. Donc, ce temple est construit. Mais la désobéissance d'Israël provoque la colère de Dieu. Il envoie la Babylonie qui rase Jérusalem et le temple. Le peuple est déporté en Babylonie. Vous connaissez l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont déportés avec eux. Et c'est sous Zorobabel, Esdras et plus tard Néhémie, vers les 515 avant Jésus-Christ, que Jérusalem et le temple sont reconstruits. Mais 500 ans plus tard, bon, on va vite dans l'histoire, le temple avait besoin de réparations sérieuses. Donc là, on arrive maintenant à l'époque de Jésus. 10 ans avant l'époque de Jésus, 10 ans avant Jésus-Christ environ, le roi Hérode, le Grand, afin de gagner la faveur des Juifs, décide non seulement de réparer le temple, mais de l'agrandir. Ceci est le temple que Jésus a connu. C'est le temple d'Hérode, on appelle ça le deuxième temple. Donc le premier temple, c'était celui de Salomon, rasé, reconstruit, ou disons, voilà. Et ensuite, le temple d'Hérode, embelli, agrandi. Il faut y aller pour voir les vestiges de ce temple, pour voir la grandeur qu'il était. Colossal. J'ai lu cette semaine que certaines des pierres utilisées pesaient plus de 100 tonnes. La plus grande pierre trouvée à ce jour mesure 13 mètres x 5 mètres x 3 mètres et pèse 628 tonnes. Une pierre. La plupart des pierres pesaient 20 tonnes. Le roi Hérode a fait appel à des architectes de la Grèce, de Rome et de l'Égypte pour planifier la construction. Le temple était tout simplement colossal et incroyablement beau. Et ça, c'est important de le savoir parce que dans Marc 13, et ça on y arrive gentiment, 1 et 2, Jésus va... Bah écoutez ce qu'il est dit dans Marc 13, 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Tout le monde était époustouflé par ce temple et même les disciples se sont dit « Mais c'est incroyable ces pierres, regarde Jésus !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus ensuite utilise cela pour montrer que la fin des temps va être tragique et que de nouveau le temple serait détruit, ce qu'il a été en 70 après Jésus-Christ par Tite. Donc, ce temple a été reconstruit par Hérode, mais de nouveau, les Juifs désobéissent, et en 70 après Jésus-Christ, Tite, le Romain, vient, et lui, de nouveau, rase le temple. Et lorsqu'on va à Jérusalem et on regarde où était le temple, les vestiges qu'on voit aujourd'hui sont les vestiges du temple d'Hérode. Le mur des Lamentations aujourd'hui est en fait ce qui reste du mur occidental de ce temple. Et si vous montez les escaliers de cette partie-là, on voit, là, ils ont fait des excavations archéologiques et on voit ces immenses pierres qui ont été poussées lorsqu'ils ont détruit les murs du temple. Et on voit ces immenses pierres, elles sont là. Donc on a un petit peu un rappel de ce qui s'est passé, la violence de ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Alors ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Juifs aimeraient aujourd'hui voir le temple reconstruit. Et beaucoup de chrétiens sont convaincus qu'un nouveau temple va être construit un jour du fait que la Bible dit que l'Antichrist s'assera dans le temple et se proclamera Dieu. Regardez dans 2 Thessaloniciens 2, très intéressant, au verset 1, 2 Thessaloniciens 2, 1, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà venu. » Il y a certains qui disaient « Ouais, le jour du Seigneur est déjà venu. » Jésus dit non. Enfin, pas Jésus, Paul qui dit non, d'accord ? Au verset, dans 2 Thessaloniciens. Que personne, verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu, écoutez bien, paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc beaucoup de chrétiens pensent que pour que cette prophétie puisse s'accomplir, pour que l'Antichrist puisse s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu, il faut qu'il y ait un temple. C'est logique. Le problème, c'est qu'en 1193, la mosquée d'Omar, une mosquée musulmane, a été construite sur le lieu même du temple. Et lorsque vous voyez l'image, vous voyez Jérusalem, vous voyez ce dôme en or. C'est une mosquée musulmane. Donc ça, c'est un problème. Car la question se pose, comment un nouveau temple juif va-t-il pouvoir être construit à cet endroit s'il y a une mosquée sur cet endroit ? Alors, quelle est la réponse à donner ? Alors, je ne suis pas prophète, d'accord ? Mais ça, c'est ma réponse. Avant 1947, le monde se posait la question, mais comment les Juifs pourront-ils un jour retourner dans leur pays ? Ça semblait impossible. Aujourd'hui, c'est chose faite. Tu dis, waouh, c'est quand même incroyable. Alors, on se pose la question, mais comment est-ce que c'est possible que le temple soit reconstruit sur cet endroit ? J'en sais rien, mais c'est tout à fait possible avec Dieu. Donc, maintenant, je reviens à notre texte. C'est dans ce temple-là que Jésus rentre. Regardons la disposition du temple. Qu'est-ce qu'il voyait ? Eh bien, peut-être la première photo. Le Naos était un bâtiment relativement petit. Bon, il n'a pas l'air très petit, mais comparé au tout, vous verrez. Qui était le lieu saint avec le lieu très saint dans lequel le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par année, le jour de l'expiation, selon Lévitique 16. Mais cet endroit était entouré d'un vaste espace qui était occupé par une série d'esplanades et de cours successives. Alors, si on va à la deuxième photo, on voit maintenant, regardez cette grande esplanade qu'on voit autour du temple, et ça c'est en fait un modèle qu'on peut aller voir, un modèle de Jérusalem à l'époque de Jésus, absolument fascinant qu'on peut voir à Jérusalem. Et bien, cette grande esplanade, c'est ce qu'on appelait la cour des païens. Donc, tout non-juif pouvait rentrer dans cette esplanade. Ça, c'est très important. N'importe qui pouvait rentrer là. Mais ensuite, plus à l'intérieur, donc à l'intérieur de la première enceinte à côté du bâtiment, il y avait ce qu'on appelle la cour des femmes, dans laquelle on pouvait rentrer par la belle porte. Peut-être prochaine photo, je crois qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà, donc cette première cour à gauche, c'était là où il y avait la cour des femmes. Tout Israélite était autorisé à entrer dans cette cour intérieure par la belle porte, appelée cour des femmes, donc hommes et femmes. Puis, prochaine photo, venait la cour d'Israël. Là, il faut regarder le mot Israël, le cercle en haut au milieu. On ne voit pas très très bien, mais on peut faire confiance à la photo. La cour d'Israël, dont l'accès se faisait par la porte de Nicanor, portait un massif en bronze corinthien qui nécessitait 20 hommes pour l'ouvrir et la fermer. Bref, dans cette cour, les hommes juifs pouvaient rentrer. Ensuite, il y avait la cour des prêtres. Là, on le voit là aussi, vous pouvez le voir. Oui, c'est à côté de la cour d'Israël. Pas visible, en fait, on ne le voit pas très bien. Mais à l'intérieur, juste à côté de la cour d'Israël, dans laquelle que les prêtres avaient accès. Et ensuite que le haut sacrificateur pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Donc ça vous donne, je crois qu'il y a encore une photo, je ne me rappelle plus. Non, d'accord. Donc ça vous donne, et surtout, est-ce qu'on pourrait reculer, oui, ça on viendra tout à l'heure, tu peux reculer encore. Voilà, c'est l'esplanade qui nous intéresse maintenant. Donc Jésus rentre, et c'est sur cette esplanade quelque part qu'il s'arrête pour regarder. Donc, deuxième chose qu'il voit, c'est l'activité des sacrifices offerts au temple. Donc, le but de ce temple, c'était quoi ? C'était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple et de procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion constant avec un Dieu qui est saint. Les sacrifices offerts au tabernacle et plus tard au temple avaient un but très précis. Le pécheur qui entrait dans le temple se trouvait face à l'autel des holocaustes où la victime était égorgée. Le sang répandu faisait l'expiation de ses fautes, le rendant pur. Pourquoi ? Parce que l'animal égorgé prenait symboliquement la place du pécheur qui, lui, aurait dû, en fait, dû être mis à mort pour son péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit Hébreux 9, 22. Donc, chaque fois qu'un juif égorgeait un animal pour son propre péché, ça lui rappelait que c'était la seule manière d'être pardonné, un substitut. Mais il y avait un problème. C'est que le sacrifice devait être répété continuellement. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Verset 11. De Hébreux 10, étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Donc ce qui est intéressant, mes amis, c'est que Jésus rentre sur l'esplanade des païens, il voit beaucoup de gens qui amènent leurs sacrifices, leurs agneaux, leurs bêtes et tout ça, pour qu'ils soient tous sacrifiés. Et là, au milieu de ça, arrive l'agneau parfait de Dieu. Tous ces agneaux pointaient à qui ? Au Messie. Et ce jour-là, le Messie venait de rentrer dans le temple. Tous ces animaux pointaient à lui. Jean-Baptiste, lui, l'avait compris. Il vit Jésus venant à lui et dit : Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Troisième chose que Jésus voit, une immense foule de gens. Tu peux retourner à l'image où on voyait les petites personnes. J'ai beaucoup aimé cette image. Non, la prochaine, je crois que c'était encore. Encore ? Non, encore. Non ? Je crois que c'était l'autre sens. C'est après le point, c'est sous le point immense. Voilà, celui-là, regardez. Alors, j'ai aimé cette photo, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça montre la taille d'une personne comparée au temple. Alors, imaginez maintenant la foule. Cette foule, ce jour-là, était bondée de monde. Pourquoi ? Parce que c'est la fête de la Pâque juive. Et on nous dit qu'à la Pâque juive, alors j'ai lu plusieurs choses, il y en a qui disent entre 400 et 500 000 pèlerins, d'autres vont jusqu'à 2 millions de pèlerins. Des gens du monde entier venaient pour cette fête et ils s'entassaient dans le temple. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde, et c'est très important de le noter, des milliers et des milliers et des milliers de gens. Jésus rentre et il regarde. Quatrième chose qu'il voit, il a vu les changeurs d'argent. Retourne à notre texte, verset 15. Marc 11, 15. Ils arrivent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Donc c'est le lendemain, c'est la maintenant qui va purger le temple. Mais on sait qu'il les a vus le jour avant. Alors je lis le verset 15. Il arrive à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc dans cette cour des païens, cette grande esplanade, il y avait des changeurs d'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font là ? C'est quoi ces gens ? Eh bien, chaque juif devait une fois par année payer la taxe du temple d'un demi-cycle, et cette taxe devait être payée à Pâques. un mois auparavant, des sortes de cabines de taxes étaient dressées dans les bourgs et les villages pour faciliter la récolte de cet argent. Mais à partir d'une certaine date, l'argent devait être impérativement payé au temple. C'est donc là que beaucoup de pèlerins payaient leurs taxes. Bien sûr, ces taxes devaient être payées dans une devise particulière. Elles ne devaient pas être payées en lingots, mais dans une devise poinçonnée. Elles ne devaient pas non plus être payées avec des alliages inférieurs, mais les pièces devaient être d'un argent de qualité supérieure. Elles pouvaient être payées en sicle du sanctuaire ou en sicle galiléen, mais surtout les devises tyriennes qui étaient d'une qualité particulièrement élevée. Donc les changeurs de monnaie avaient pour fonction de convertir l'argent inacceptable en argent acceptable pour l'offrande. Alors, est-ce que ça peut se comprendre ? Alors j'essaie de traduire ça dans notre église, d'accord ? Chaque dimanche, pour pouvoir assurer les frais de notre église, des gens sont libres de donner ce qu'ils veulent lors de l'offrande. Mais il arrive, me dit-on, que certaines personnes de passage mettent peut-être des euros, des francs suisses, peut-être des dollars, peut-être une autre devise. Il y a plein de devises qui peuvent atterrir dans la corbeille. Donc ceci oblige le trésorier à aller à la banque pour convertir l'argent en francs suisses pour que l'argent soit utilisable. Donc ce n'est pas nécessairement un mal. Le problème, dans le temple à l'époque, c'est que les changeurs profitaient de la situation et faisaient payer la transaction à un prix exorbitant. Et le bénéfice était appelé le colbon. Et le problème, c'est que une partie de ce colbon, ou peut-être tout, restait dans la poche du changeur. Donc une grande partie de cet argent était taxée comme offrande, mais était gardée. Et donc, ces changeurs s'enrichissaient. Mais Jésus voit une cinquième chose ici. Il voit les vendeurs de pigeons, de brebis et de bœufs. Verset 15, on l'a vu. Des bœufs, parce que dans l'autre incident, parce qu'il y avait un deuxième incident avant celui-ci où il a chassé les vendeurs du temple, dans Jean 2, 14, il est dit, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Alors, il y avait un deuxième commerce lucratif au temple. C'était celui de vendre des pigeons, des brebis et des bœufs. La plupart des personnes qui visitaient le temple venaient avec l'objectif de faire une offrande, de faire un sacrifice. La loi de Dieu exigeait des sacrifices pour toutes sortes de choses. Les pigeons et les tourterelles devaient être offertes lorsqu'une femme venait au temple pour être purifiée après avoir mis au monde un enfant, Lévitique 12, 1 et 3. Lorsqu'un lépreux était guéri, lui aussi devait aller au temple pour y offrir un sacrifice de purification, Lévitique 14, 1 et 22. Un homme guéri de gonorrhée devait aussi faire lui une offrande, Lévitique 15, 2 et 15. Ensuite, il y avait peut-être ce qu'on donnait pour le pardon des péchés. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices qui se faisaient. Toutes sortes d'offrandes. La plus grande partie était des petits oiseaux, des pigeons et des tourterelles, parce que les gens pauvres avaient le droit d'offrir quelque chose de moins cher. Donc, il y avait des vendeurs de pigeons, mais aussi de brebis et de bœufs. Donc la vente d'animaux s'est installée dans cette cour. Alors qu'est-ce qui se passait ? Les animaux sacrifiés devaient avoir une particularité. Ils devaient être sans défaut. Et voici où se situait l'abus. Parce que le fait que des animaux soient pourvus pour les gens qui voyageaient, ils n'allaient peut-être pas venir de la Galilée avec leurs bœufs, avec leurs brebis, donc ce n'était pas inconcevable de voir qu'ils devaient peut-être acheter quelque chose. Ce n'est pas un mal, ça, en lui-même. Je pensais de nouveau à l'église, c'est comme nous, on vend des livres. Bon, ce n'est pas de profit du tout. On vend des livres pour que ça rende facile des Bibles et des livres pour que les gens puissent avoir ça. Donc ce n'est pas un mal, nécessairement, de vendre des choses. Mais il y avait un abus. Voici la situation de l'abus. Il y avait des inspecteurs officiels pour être certains que les animaux étaient bien sans défaut. Et avec le temps, les animaux achetés à l'extérieur du temple par les marchands indépendants furent systématiquement rejetés au profit des animaux vendus dans le temple. Donc ils orientaient les fidèles à l'intérieur de la cour du temple pour qu'ils achètent les animaux sans défaut, là et pas autre part. Alors le problème, c'est que maintenant, puisque les gens étaient amenés au temple pour acheter les animaux, on pouvait acheter ces animaux-là, qui étaient soi-disant eux propres, 20 fois plus cher que les animaux dehors, mais qui allaient systématiquement être éliminés. Et il y a un des bazars à l'intérieur du temple qui était appelé le bazar d'Annas. Et Annas, c'était le souverain sacrificateur. Donc, même le souverain sacrificateur avait son petit stand et il profitait du système. Personnellement. L'abus durait depuis longtemps. Un certain rabbin Simon ben Gamaliel avait vu l'abus et l'avait dénoncé. Il avait même été honoré pour cela. Sa plainte avait réussi à provoquer la baisse du coût d'une colombe à une pièce d'argent au lieu d'une pièce d'or. Mais écoutez, c'est pas différent que le problème de la vente des indulgences en 1517. Vous vous rappelez, Martin Luther a dénoncé la vente des indulgences. Elles étaient vendues, c'est des bouts de papier vendus par l'Église catholique, garantissant un purgatoire raccourci pour ceux qui les achetaient, ou si tu payais beaucoup, directement au ciel. Ben finalement, c'est Martin Luther qui a dénoncé cet abus. Il a dit non, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, Romains 1, 17. Ben c'est pareil. Et dernière chose qu'il voit, on est encore tout ça, c'est là, les choses qu'il voit, c'est incroyable. Hein. Retournons à nos textes, verset 16, regardez ce qu'il voit encore. Jésus qui voit, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Alors, vous rappelez l'immensité de l'esplanade. Ben, les commerçants, pour aller de Jérusalem au mont des Oliviers ou autre part, se sont dit, mais pourquoi faire le tour du temple, ça va me prendre 30 minutes de plus, allez, je prends un raccourci, je traverse le temple. Donc c'est exactement ce qu'ils faisaient. La cour des païens était souvent utilisée comme un raccourci par ceux qui voulaient aller plus vite à la ville. Donc, avec tous leurs biens, leurs marchandises, ben, ils rentraient dans le temple d'une porte et sortaient de l'autre. Ils traversaient tout simplement pour un raccourci. Donc, mes amis, voilà ce que Jésus a vu. Donc, ça, c'est la première chose qu'on apprend de Jésus. Il manifeste une perspicacité divine. Il regarde et il voit. Maintenant, les choses vont très vite. Deuxième chose qu'on apprend sur Jésus, Jésus manifeste une colère divine. Je reprends le verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Attendez-moi. La scène, elle est vraiment impressionnante. Vous savez, souvent, les tableaux représentent Jésus un petit peu comme un homme faible, plutôt maigrelet, hein. Jésus avec une sorte d'auréole sur la tête. Mais allez voir, là, vraiment, Jésus rentre comme un Rambo ou un Schwarzenegger, quoi. Il rentre pour faire le ménage. C'est pas le petit maigrelet. Là, il rentre et il a un objectif clair. Il a réfléchi, il a bien dormi, et maintenant il vient. Attention. Il avait tout considéré. Alors, n'oublions pas la foule, des milliers et des milliers de personnes dans cette cour. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, regardez ces détails. Il chassa tous ceux qui vendaient ou achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. Écoutez le bruit. Écoutez le bruit. Les pigeons, les brebis, les vaches, les bœufs, les gens, les tables. Vous avez déjà renversé une table? Vous avez déjà pris une table et vous l'avez renversée comme ça avec tout ce qu'il y a dessus? Moi, jamais. Peut-être j'aurais essayé. Voilà ce qu'il a fait. Et avec des piles d'argent. Écoutez le bruit de ce qui se passait ce jour-là. Et des gens qui réagissaient, bien sûr. Alors, allez avec moi, à Jean. Passez encore un autre truc assez incroyable. Jean 2. Là, c'est incroyable. Regardez. Verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs aussi. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple. Jésus prend le temps et fabrique un fouet. Alors c'est quoi un fouet? Je vais vous montrer. J'ai un fouet. Alors je ne sais pas si c'est le fouet, le genre de fouet que Jésus avait, mais écoutez, je me suis entraîné, d'accord? Ah, c'est pas bien. Mais on va faire encore mieux. Ah, nul. Ah ouais, pas mal, non? Aïe. Je suis pas très bon. Aïe. D'accord, vous avez compris, d'accord? Voilà. Mais regardez, il a fait un fouet. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à Jésus avec un fouet? Et il met le ménage. Il a dit qu'il chassa tout le monde dans le temple. Alors, combien de temps ça a pris? Ça dit pas. 30 minutes, une heure? Un homme qui fait le ménage. Alors on a l'impression, en lisant les textes parallèles, que tout le monde est parti, qu'ils ont laissé leurs affaires sur place. Mais il faut quand même réaliser qu'il y avait des milliers de personnes, des vendeurs partout. Et je me suis aussi dit, mais il n'avait pas une grosse sono avec des haut-parleurs pour que tout le monde l'entende. Non, il n'avait rien, il n'avait que lui et son fouet. Et c'est intéressant, dans Marc 11, 16, il est dit qu'il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Donc, il renverse tout, il chasse tout, et il arrête en plus ceux qui prenaient le raccourci. C'est étonnant. C'est ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est venu comme juge. Il est en colère. Il hait le péché, il aime la sainteté et la pureté. Il veut un temple digne de son nom et de sa présence. Le Messie, l'agneau parfait de Dieu, était là. Et il voit un centre commercial et un bazar total. Étonnant. Absolument étonnant. Jésus manifeste son autorité divine. Moi, je me suis posé la question, mais comment est-ce que c'est possible pour un homme d'expulser tous ces gens du temple sans micro? Ils avaient ce qu'on appelle une police du temple. S'il y avait un perturbateur, on envoyait la police et on sortait le perturbateur. C'était tout planifié. Quelqu'un n'aurait-il pas pu arrêter Jésus, ce gars qui, je sais pas, vous renversez une table, la police arrive et on vous embarque. Mais pas lui. Lui, il a renversé table après table après table après table. Méthodiquement, lentement, il a tout viré. Tout le monde était impuissant. Quelle est la réponse? Comment est-ce possible? Bien, mes amis, la réponse est que personne n'avait aucun pouvoir sur lui. Jésus était qui? Jésus était Dieu incarné. Les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les vendeurs, les acheteurs, les pèlerins, la police n'avaient aucun pouvoir sur Jésus. Il est capital de comprendre cela. Parce que vous direz, oui, mais attends, voir, il n'avait pas le pouvoir là, mais trois jours plus tard, ils l'ont crucifié. Comment on l'explique? Ah! Parce que dans Jean 19, 10, Pilate dit à Jésus, qui reste muet, ceci. Pilate dit, juste avant la crucifixion, « Est-ce à moi que tu parles? Ne parle pas ?» Pilate dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» À quoi Jésus répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voyez-vous, Jésus répond à Pilate, « Tu n'aurais même pas eu le pouvoir de me crucifier si Dieu ne te l'avait pas autorisé. » Tu ne peux rien faire à l'extérieur de la souveraineté, de la puissance de Dieu. qui montre que Dieu a le pouvoir et son Fils. Dans Jean 10, 17 à 18, Jésus parle de sa crucifixion. Il dit ceci, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus dit, « Mais allez voir, vous croyez que c'est vous qui me crucifiez ? Quelque part, c'est moi qui offre ma vie. J'ai le pouvoir total sur ma vie. Je peux la prendre, je peux la donner et je peux la reprendre. » Et quelques jours plus tard, c'est exactement ce qu'il fera. Il se donnera la crucifixion et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Vous vous rappelez de Luc 4, 29 à 30 ? Il s'est enlevé, ils le chassèrent de la ville. Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur lequel leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Vous vous rappelez, la synagogue de Nazareth voulait tuer Jésus, ils l'ont pris, ils allaient le tuer, le lancer d'une colline, et le texte nous dit, chut, il a disparu. Comment? Parce qu'il était Dieu. Et personne n'a un pouvoir sur lui, c'est lui qui décide tout. Vous vous rappelez dans Jean 18, 6, lorsque Judas est venu avec toute cette corde pour capturer Jésus, dans Jean 18, 6, lorsqu'on lui dit « Qui es-tu ? Je suis Jésus », il est dit « C'est moi » et ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est incroyable. Jésus dit « C'est moi » et quelque chose s'est passé et toute cette corde de centaines, peut-être plus de personnes, tout le monde tombe par terre. Jésus est le seul debout. Lorsqu'ils se relèvent tous et ils le capturent, qui dit « Attends, voir ». Tu vas le capturer après qu'il vienne aplatir tout le monde. Oui. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils étaient aveugles. Non, mais le pouvoir de Jésus, c'est... Ouh. Vous vous rappelez lorsque Pierre défend Jésus avec son épée dans le jardin de Gethsemane, vous vous rappelez ? Coupe l'oreille de Malchus. Jésus lui dit, Matthieu 26, 52, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Puis ensuite, il dit ceci, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Il dit, « Pierre, merci pour ton épée, c'est super sympa de me protéger. Mais tu sais, si j'ai besoin de protection, je fais ça. Tac, 12 légions d'anges, immédiatement. » Voyez-vous, mes amis, ce jour dans le temple, la divinité de Jésus, sa puissance, son autorité, on n'y était pas, donc je ne sais même pas comment le décrire, mais tout le monde dans ce temple savait qu'ils étaient face par qu'un homme. Et ça, on le sait. Parce que regardez à partir du verset 27. Marc 11, 27, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Eh ouais, on le regardera un autre jour ça. Ils disent « Tant, ce que Jésus vient de faire, il y a une autorité plus grande que simplement l'autorité d'un homme. » Quatre, Jésus manifeste un engagement divin vis-à-vis des Écritures. Verset 17, c'est tellement beau de voir quand Jésus est confronté, vous savez ce qu'il fait ? Il cite les Écritures. Jésus cite la Bible. Voilà son autorité. Il enseignait, il disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il cite Ésaïe 56, 7. Et ce texte révèle pourquoi Jésus était furieux. Le temple était devenu un centre commercial, un endroit où les pèlerins se faisaient carrément dépouiller, voler, plutôt qu'un endroit permettant au peuple de venir à Dieu pour l'adorer. En plus, les gens faisaient leur commerce et ils faisaient leurs raccourcis. Moi, ça m'a toujours fait marrer ce truc. C'est fou. Plutôt qu'un endroit où le peuple de Dieu devait venir adorer Dieu. Ce n'était plus une maison de prière, mais une maison de misère. Le temple était devenu une caverne de voleurs. Et ensuite, il cite Jérémie 7, 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Oui. Terrible. Lorsque Salomon a, le temple a été dédié par Salomon, dans 1 Roi 8, 28 et 30, sa prière est celle-ci. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur faite en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Où? Dans ce lieu. C'est pour ça que dans le psaume 27 et le verset 4, David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quoi ? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est son engagement à la parole de Dieu. Il cite l'Écriture. Il cite l'Écriture. Le Fils de Dieu se défend en citant les Écritures. Cinquième chose qu'on apprend sur Jésus, Jésus manifeste une humilité divine. On est de retour, Marc 11, verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr et ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. C'est incroyable. Hein. Après tout ça, ils veulent le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il a dévoilé leur péché. Et quand ton péché est dévoilé, tu as deux options. Un, tu te repens. Deux, tu te débarrasses de la chose qui trouble ton péché. Donc c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ne se sont pas repentis. Il faut se débarrasser de Jésus. Mais ce qui est intéressant, regardez. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchaient le moyen de le faire mourir. Pourquoi ? En fait, même pas parce qu'il avait fait ça dans le temple. Regardez ce qu'il est dit. Car il le craignait parce que toute la foule était frappée de quoi ? Sa doctrine. Oui, les gestes de Jésus ont troublé, mais ce que les gens écoutaient, entendaient, c'est sa doctrine. Et sa doctrine dévoilait le péché qui se produisait dans ce temple. Et ils étaient furieux. Donc ils n'avaient que deux options, de se repentir. Ça serait été beau. Certains l'ont fait. Nicodème était un des pharisiens qui s'est repenti. Mais la plupart ne l'ont pas fait. Conclusion. Comment on conclut ? Qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme ça ? Comment on l'applique à nous ? Alors je vais vous dire, je laisse mon cœur parler. Je me suis dit, imaginons que Jésus rentrait aujourd'hui dans l'EIG. Qui se mettait derrière et qui regardait. Et il considère ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il dirait ? Qu'est-ce qu'il ferait le lendemain ? Hein ? T'as un moment aussi. Mais c'est légitime comme question. En fait, on ne devrait même pas poser la question si Jésus rentrait ici, parce qu'il est où? Il est déjà ici, mes amis. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il voit dans l'Église? Et qu'est-ce qu'il voit dans chaque individu qui compose cette Église? Ben, c'est quoi l'Église? Qui est le temple du Saint-Esprit aujourd'hui? Ben, c'est nous, chacun de nous. Je pense que c'est ça l'application. Si Jésus aujourd'hui rentrait ici, qu'est-ce qu'il dirait de l'Église? Qu'est-ce qu'il dirait de toi? Et qu'est-ce qu'il dirait de moi? Ah là, ça fait réfléchir, hein. Quand j'ai eu cette pensée, c'était dur pour moi, parce que je me suis dit, aïe, 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 aïe. John, t'en es où? Vraiment. C'est facile de faire les gestes d'un chrétien. C'est ce qu'ils faisaient, tous ces pharisiens, tous ces gens. T'en es où? Vraiment, t'en es où? On est encore en janvier, on se fait des résolutions en janvier. C'est le moment de vraiment faire le bilan. Dire, Seigneur, voilà, écoute, est-ce que je dois être purgé? Est-ce que tu prendrais un fouet pour me purger? Ou est-ce que dans certaines églises, sur les 7 églises d'Apocalypse 2, 5 il a grondé, 2 il a félicité? Ah Seigneur, j'espère qu'on sera un petit peu félicité. C'est drôle de dire, je n'aime pas le dire comme ça, mais où est-ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas que du mal. Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardis, Laodicée ont été grondés. Smyrne et Philadelphie ont été félicités. Je demande que le Seigneur nous aide à être une église qu'il félicitera et qu'il veut féliciter. Ça c'est ce que j'espère, c'est ce que je prie de tout mon cœur. Prions. Seigneur, c'est presque un passage violent aujourd'hui qu'on a vu. Mais il touche notre émotion et notre être au plus profond de nous, Seigneur. Seigneur, j'ai apprécié David beaucoup ce matin qui a demandé pardon publiquement pour les fautes qu'il aurait pu commettre. Seigneur, c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, je te demande pardon pour moi et pour notre Église, pour tous nos péchés, Seigneur, pour les erreurs qu'on commet. Seigneur, peut-être pour les choses qu'on ne fait pas justes, pour notre manque de zèle. Seigneur, il y a tellement de choses, tellement de choses. Je te demande pardon, Seigneur, je ne peux même pas les énumérer. Mais Seigneur, je suis le premier à savoir que notre Église, elle est loin d'être parfaite. Oui, elle est parfaite en Christ, mais Seigneur, dans la vie de tous les jours, Seigneur, heureusement que c'est toi qui l'as construit et que tu l'as bâti. Seigneur, on te demande pardon. Pardon pour nos erreurs, pardon pour nos péchés, pardon pour nos fautes. Et Seigneur, on te demande de nous aider à être plus saints, plus zélés pour toi, Seigneur. Aide-nous à mettre de l'ordre dans nos vies et à comprendre qui tu es. Vraiment, Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour ton pardon. Et si quelqu'un aujourd'hui ne le connaît pas, Seigneur, que maintenant il te demande, « Oh Jésus, pardonne mon péché. » Et nous qui sommes chrétiens, Seigneur, merci parce que tu pardonnes notre péché. À toi la gloire, Seigneur. Merci et merci encore. Au nom de Jésus. Amen.